Here's a song that comes from Tanzania. Malaika, nakupenda malaika.
Bonjour, bonjour, auditrice, auditeur de Radio Galère. Eh bien oui, c'est Livres et Amis. Ça fait longtemps qu'on ne s'était pas retrouvés en direct. J'espère que vous avez apprécié les rediffusions envoyées par Sidi. Et nous reprenons donc aujourd'hui nous sommes le 7 mai, le mercredi 7 mai, veille du 8 mai. Je vais avoir plein de choses à dire sur le 8 mai, c'est évidemment une date historique, mais pour changer un peu, justement, et en fonction de ce 8 mai, un peu de violence, un peu de provocation, avant toute introduction, on va se lancer dans la lecture et je crois que vous allez reconnaître. Et au milieu de tout ça, je dis « Hourra ! Mon grand-père meurt, mon grand-père est mort. » Je dis « Hourra ! La vieille négritude progressivement se cadavérise. » Il n'y a pas à dire, c'était un bon nègre. Les Blancs disaient que c'était un bon nègre, un vrai bon nègre. Le bon nègre à son bon maître. Alors je dis « Hourra ! C'était un très bon nègre. » La misère lui avait blessé poitrine et dos et en avait fourré dans sa pauvre cervelle qu'une fatalité pesait sur lui qu'on ne prend pas au collet, qu'il n'avait pas puissance sur son propre destin, qu'un seigneur méchant avait de toute éternité écrit des lois d'interdiction en sa nature pelvienne, et d'être le bon nègre, de croire honnêtement à son indignité, sans curiosité perverse de vérifier jamais les hiéroglyphes fatidiques. C'était un très bon nègre, et il ne lui venait pas à l'idée qu'il pourrait fuir, couper tout autre chose vraiment que la canne insipide. C'était un très bon nègre, et on lui jetait des pierres, des bouts de ferraille, des tessons de bouteilles. Mais ni ses pierres, ni ses ferrailles, ni ses bouteilles ne l'ont empêché d'être un bon nègre. Ah, quiètes années de Dieu sur cette motte terraquée, et le fouet disputait au bombillement des mouches la rosée sucrée de nos plaies. Alors je dis « Hourra ! La vieille négritude progressivement se cadavérise. L'horizon se défait, recule et s'élargit. Et voici parmi des déchirements de nuages la fulgurance d'un signe. » Le négrier craque de toutes parts, son ventre se convulse et résonne. La fretenia de sa cargaison ronge les boyaux fétides de l'étrange nourrisson des mers. Et ni l'allégresse des voiles gonflées comme une poche de doublon rebondie, ni les tours jouées à la sottise dangereuse des frégates policières ne l'empêchent d'entendre la menace de ses grondements intestins. En vain pour s'en distraire, le capitaine pend à sa grande vergue, le nègre le plus braillard, ou le jette à la mer, ou le livre à l'appétit de ses molosses. La négraille aux senteurs d'oignons frits retrouve dans son sang répandu le goût amer de la liberté. Et elle est debout, la négraille assise, inattendument debout. Debout dans la cale, debout dans les cabines, debout sur le pont, debout dans le vent, debout sous le soleil, debout dans le sang, debout et libre. Debout et non point pauvre folle dans sa liberté et son dénuement maritime girant la dérive parvette, la voici plus inattendument debout, debout dans les cordages, debout à la barre, debout à la boussole, debout à la carte, debout sous les étoiles, debout et libre. Et le navire lustral s'avance impavide sur les eaux écroulées. Et maintenant, pourrissent nos flocs d'ignominie par la mer cliquetante de midi, par le soleil bourgeonnant de minuit. Écoute, épervier qui tient les clés de l'Orient, par le jour désarmé, par le jet de pierre de la pluie. Écoute, squale qui veille sur l'Occident. Écoute, chien blanc du Nord, serpent noir du midi qui a achevé le ceinturon du ciel. Il y a encore une mer à traverser, oui, encore une mer à traverser pour que j'invente mes poumons, pour que le prince se taise, pour que la reine se taise, Encore un vieillard a assassiné, un fou a délivré, pour que mon âme luise, aboie, aboie, et que ulule la chouette, mon bel ange curieux. Le maître des rires, le maître du silence formidable, le maître de l'espoir et du désespoir, le maître de la paresse, le maître des danses, c'est moi. Et à moi mes danses de mauvais nègre, à moi mes danses, la danse brise-carcan, la danse saute-prison, la danse il est beau et bon et légitime d'être nègre. À moi mes danses, et saute le soleil sur la raquette de mes mains. Mais non, l'inégal soleil ne me suffit plus. Enroule-toi, vent, autour de ma nouvelle croissance. Pose-moi, pose tes doigts mesurés. Je te livre ma conscience et mon rythme de chair. Je te livre les feux où brasille ma faiblesse. Je te livre le chingant. Je te livre le marais. Je te livre l'intouriste du circuit triangulaire. Dévore, vent, tout cela. Je te livre mes paroles abruptes. Dévore et enroule-toi, et en t'enroulant, embrasse-moi d'un plus vaste frisson, embrasse-moi jusqu'au nous furieux, embrasse, embrasse-nous, mais nous ayant également mordu jusqu'au sang de notre sang, mordu, embrasse ma pureté, ne se lie qu'à ta pureté, et alors embrasse, embrasse comme un chant de juste philao le soir, nos multicolores puretés, et lis-moi, lis-moi son record. Sans remords, pardon. Lis-moi de tes vastes bras à l'argile lumineuse. Lis ma noire vibration. Lis-moi, fraternité âpre. Monte, monte, colombe. Je te suis imprimé en mon ancestrale cornée blanche. Eh bien... Je ne finirai pas, mais enfin, c'est presque ça quand même. Alors voilà, je ne l'ai pas dit tout à l'heure. C'est Dominique au micro, c'est Françoise à côté, c'est Thibaut à la technique en face. Et j'ai la crève. Ben voilà, j'ai la crève. Et j'ai eu bien du mal à finir un grand petit morceau de, vous avez deviné, le cahier d'un retour au pays natal de Aimé Césaire. Alors, ce bout-là, c'était un grand bout de colère, bien sûr, entre, comme il l'a dit, la vieille négritude et le bon vieux nègre, et puis la liberté cherchée, la liberté rejointe, la liberté née de la lutte, bien sûr, avec, et c'était ça ma référence à la date historique de demain, avec une date historique pour effectivement changer de monde et commémorer en ce 8 mai 2025 les 80 ans des massacres de Sétif, le 8 mai 1945, qui effectivement ont marqué pour les historiens et pour aussi la population algérienne le début des révoltes, le début des rébellions, qui n'a été acté, en fait, pour l'État français, souvent, que le 1er novembre 1954. Donc, on a dit tout à l'heure un peu de violence, oui, mais beaucoup de violence en ce 8 mai 1945, lorsque, à Sétif, des soldats algériens, musulmans français, comme on disait à l'époque, reviennent de l'armée, puisqu'ils ont combattu aux côtés des forces internationales de libération contre le nazisme dans la Deuxième Guerre mondiale. Et quand ils reviennent et qu'ils participent le 8 mai 1945 à Sétif aux commémorations, eh bien, ils veulent un peu de reconnaissance, justement, de leur combat. Et en particulier, un certain nombre d'entre eux agitent, en plus des drapeaux français, américains, anglais, etc., agitent des drapeaux algériens. Alors, c'en est trop pour le gouvernement français de l'époque. Et à Sétif, on commence à tirer sur la foule des manifestants qui, pourtant, sont venus commémorer, enfin, non pas commémorer, mais fêter l'armistice du 8 mai 1945. Alors, on tire sur la foule, a priori joyeuse et festive, de ces tifs en 1945, mais surtout, dans les jours qui suivent, les semaines qui suivent, on va massacrer dans les campagnes des gens qui n'ont que le tort d'être soupçonnés d'avoir participé justement à ces manifestations de ces tifs. Donc le 8 mai 45, on vient de le dire, c'est un peu le démarrage d'une rébellion contre effectivement l'Algérie française, mais c'est surtout les pires violences contre une population civile qui commence à ce moment-là et qui ne fera évidemment que s'amplifier après, puisque les troupes de l'armée française vont massacrer dans des villages des populations civiles qui, évidemment, ne sont pour rien dans toute cette histoire. Et par contre, l'armée française va aussi monter de véritables, je ne sais pas comment on peut dire, de faux documents pour montrer justement les redditions des rebelles de Sétif, de Guérata et d'autres villages autour. Nous sommes allés hier soir voir un film qui s'appelle justement « Massacre de Sétif, un autre 8 mai 45 » de Mehdi Lalaoui. Et ce film montre et démontre que l'armée française a organisé des documents, a créé au fond des documents, a fait prendre des photos justement de paysans des douars entourant Sétif, qui jouaient, qui représentaient une reddition, alors qu'en fait, il n'y avait jamais eu de rébellion dans les villages. Donc, c'est intéressant ce film que nous avons vu hier soir de Mehdi Lalaoui, parce que ça démontre cette espèce de, je ne sais pas comment on pourrait dire, de volonté du pouvoir français de monter des documents qui sont des faux, mais qui montre le fait que la population algérienne se rebelle contre la présence de la France en Algérie. Et à de nombreuses reprises, c'est au fond ça qui est aussi ce qui commence avec les massacres de Sétif de mai 1945. Ce qui commence, c'est cette volonté du pouvoir français d'organiser une information qui ne soit plus une information véridique, mais qui soit tout simplement une information éventuellement biaisée, bien sûr, sur ce qu'on veut faire dire ou ce qu'on veut dire de ce qui se passe effectivement en Algérie à partir de 1945, mais surtout ensuite de 1954. Et dans les années qui ont suivi, on a bien vu aussi dans des films comme « La bataille d'Alger » qu'il y avait à la fois, bon, bien sûr, des atrocités commises contre la population, mais aussi des manipulations de l'information qui ne cessaient jamais et qui montraient ou qui tentaient de montrer que justement la violence de l'État français ou de l'armée française n'était qu'une réponse à la rébellion de la population et à cette volonté, disons, de la population de se rebeller. Donc, le combat pour l'information, évidemment, c'est des choses dont on a beaucoup parlé déjà pour d'autres occasions, avec le poids du groupe Bolloré maintenant, avec effectivement des talk-shows organisés pour faire tenir debout des idées qui ne tiennent pas debout. Pour revenir peut-être à l'expression ici de Aimé Césaire, être debout, oui, mais être debout pour la vérité, pour le combat, et non pas dans des émissions qui ne tiennent pas debout, pour au contraire caricaturer la vérité, pour caricaturer les combats pour la liberté, etc. Alors, résister, être debout, quand on parle des Antilles, ça rappelle bien sûr Maryse Condé. On a lu ici ensemble, par exemple, « Traversée de la mangrove ». Maryse Condé, elle n'a cessé jusqu'à la fin de ses jours justement d'être une femme debout, un peu aussi en référence à Toni Morrison. Je crois qu'on n'a jamais lu de livre de Toni Morrison, parce qu'évidemment, c'est des traductions. Alors, moi, je suis toujours un petit peu réticente, mais bon, ce sont des femmes qui ont combattu pour la femme en tant que telle, pour l'individu et pour le fait que chaque individu, homme ou femme, soit respecté dans ce qu'il est, dans son histoire, dans sa couleur de peau, dans sa culture. Et donc, Aimé Césaire, fondateur avec Léopold Sédar Senghor, avec Léon Gontran Damas, avec aussi Birago Diop, de ce concept de négritude, donc de revendication de la culture et de la fierté de la population noire. Aimé Césaire donc publie en 1947 « Cahiers d'un retour au pays natal ». À l'époque, c'est juste une parution dans une revue. Et puis, ça sera rediffusé, republié en 1947, en 1949, dans les années 50, en particulier avec l'édition Présence africaine, qui continue dans les années 50 à publier des écrits des écrivains africains et caraïbes et guyanais, puisque Léon Gontran Damas, il était de Guyane. Donc, c'est vraiment la volonté pour nous aujourd'hui de faire ce lien entre la colonisation de l'Algérie et la lutte ou l'effacement du combat des Algériens pour leur liberté. Une lutte donc qu'on peut remettre en lien avec celle des populations caraïbes, par exemple Aimé Césaire. Par exemple aussi, il y a peu, bien sûr, vous vous en souvenez, Rodrigue Petitot, le R, et la lutte de la population de la Martinique contre la vie chère, contre le pouvoir des béquets, contre cette aliénation qui continue d'une population par un pouvoir qui, globalement, est encore un pouvoir colonial. On va reprendre juste une page de Aimé Césaire là, pour dire justement cette volonté d'être debout. Et puis après, on reviendra sur le long fil de son écriture du cahier du retour au pays natal, qui est aussi un fil poétique, un fil surréaliste, enfin une vraie littérature. Et nous sommes debout maintenant, mon pays et moi, les cheveux dans le vent, ma main petite maintenant dans son poing énorme, et la force n'est pas en nous, mais au-dessus de nous, dans une voix qui vrille la nuit et l'audience comme la pénétrance d'une guêpe apocalyptique. Et la voix prononce que l'Europe nous a, pendant des siècles, gavés de mensonges et gonflés de pestilence, car il n'est point vrai que l'œuvre de l'homme est finie. Il n'est point vrai que nous n'avons rien à faire au monde, que nous parasitons le monde, qu'il suffit que nous nous mettions au pas du monde. Mais l'œuvre de l'homme vient seulement de commencer, et il reste à l'homme à conquérir toute interdiction immobilisée au coin de sa ferveur, et aucune race ne possède le monopole de la beauté, de l'intelligence, de la force. Il est place pour tous au rendez-vous de la conquête, et nous savons maintenant que le soleil tourne autour de notre terre, éclairant la parcelle qu'a fixée notre volonté seule, et que toute étoile chute de ciel en terre à notre commandement sans limite. Je tiens maintenant le sens de Lord Ali. Mon pays est la lance de nuit de mes ancêtres Bambara. Et elle se ratatine et sa pointe fuit désespérément vers le manche, si c'est de sang de poulet qu'on l'arrose. Et elle dit que c'est du sang de l'homme qu'il faut à son tempérament, de la graisse, du foie, du cœur de l'homme, et non du sang de poulet. Et je cherche dans mon pays, non des cœurs de date, mais des cœurs d'hommes, qui, pour rentrer aux villes d'argent par la grande porte trapézoïdale, battent le sang viril. Et mes yeux balayent ces kilomètres carrés de terre paternelle, et je dénombre les plaies avec une sorte d'allégresse, et je les entasse l'une sur l'autre comme de rares espèces, et mon compte s'allonge toujours d'imprévus monnayages de la bassesse. Et voici ceux qui ne se consolent point de n'être pas faits à la ressemblance de Dieu mais du diable, ceux qui considèrent que l'on est nègre comme commis de seconde classe, en attendant mieux et avec possibilité de monter plus haut, ceux qui battent la chamade devant soi-même, ceux qui vivent dans un cul de basse-fosse de soi-même, Ceux qui se drapent dans une pseudomorphose fière, ceux qui disent à l'Europe « Voyez, je sais comment vous faire des courbettes, comment vous présenter mes hommages, en somme, je ne suis pas différent de vous. Ne faites pas attention à ma peau noire, c'est le soleil qui m'a brûlé. » Donc oui, Césaire accuse le bon nègre de rester un bon nègre et Césaire revendique la beauté de la race noire, s'il existe une race noire, l'égalité des hommes. Et c'est aussi d'ailleurs ce qu'ont revendiqué un certain nombre d'associations marseillaises, d'associations françaises qui disent bien sûr que nous sommes tous, dans ce Finistère qu'est la France, nous sommes tous des mélanges, nous sommes tous et toutes le résultat de mélanges. Et bien sûr, nous devons résister pour revendiquer l'égalité des femmes et des hommes, toutes et tous entre eux. Alors, cette revendication, elle est exprimée en ce moment. Il y avait un camarade d'autres émissions qui me faisait remarquer qu'en ce moment, dans les bibliothèques de Marseille, il y a un cycle de conférences, de rencontres, de projections, etc., qui ont pour thème « Tu es chez toi ici ». Et « Tu es chez toi ici », ben oui, c'est un slogan des bibliothèques de Marseille et de la ville de Marseille pour dire à nous toutes et tous, composants et composantes de la population marseillaise, que oui, nous sommes chez nous ici, c'est-à-dire que nous sommes toutes et tous égales, égaux, et nous sommes également à notre place dans cette ville, dans ce pays. Et c'est cette espèce de grande voix et de grand souffle commun que revendique Aimé Césaire, cette grande voix justement de la civilisation, pourrait-on dire au sens large, de la culture internationale qui est celle de la ville de Marseille. Alors on va revenir un peu avec de la musique d'abord sur cet internationalisme. Et puis on reviendra après la pause musicale sur des pages du cahier d'un retour au pays natal, comme je vous le disais, pour je ne sais pas, en faisant appel aussi à Katabiasid ou à Faïz Aghen, en faisant appel donc à ces voix internationales qui revendiquent de notre égalité. Alors allons-y, un peu de musique. Il s'agit de Colo Barst qui a pris fête et cause justement pour la lutte des Martiniquais contre la vie chère, la lutte de la population martiniquaise contre les béquets qui continuaient à les exploiter, ne serait-ce que par les prix dans les supermarchés, puisque évidemment, ils sont propriétaires des chaînes de supermarchés. Donc, Colo Barst avec d'autres qui nous disent que, bah oui, il faut résister. Allons-y.
Big up Saïwan, ensemble nous qu'écouter, ensemble nous qu'élever. Pas chercher lumière d'un côté qui a Dieu, pas chercher. Pas chercher lumière de côté qui a foutu. Pas chercher. Faut qu'on partage. On y a fond d'amour dans les frais et puis les seins. Éclairer chimer les autres, éclairer chimer autour. Pas chercher lumière de côté qui a tchèo. Oh, pas chercher de côté en tchèo lumière. Yeah, yeah. Pour guider les autres, l'amour qu'il a, oui, l'amour qu'il a, ça c'est l'amour. Pas chercher lumière d'un côté qui a Dieu, pas chercher lumière d'un côté qui a Dieu, pas chercher. Lumière la vie en Dieu. C'est ça le chemin qui n'est pas fait excellent amour. En l'homme qu'à la vélote, ensemble nous qu'est aller, ensemble nous qu'est avancer, ensemble nous qu'est écouter, ensemble nous qu'est élever. En chaille l'amour, en chaille l'amour, pas fait excès. En chaille l'amour, en chaille l'amour, en chay la sec fwe, an chay l'amou, an chay l'amou, pa yish pey nou, pa tout l'univers, an chay l'amou, an chay l'amou, l'amou nou pataje, l'amou pou nou vansé, l'amou ki ne limye, l'amou ki an fontye, kon l'amou souple, bel l'amou souple, pou nou vansé, l'amou pou pataje,
an chay l'amou,
limye dan tche, ouy. Pas chercher d'autre côté, pas chercher, pas chercher d'autre côté. Il y a un frontière, pas chercher d'autre côté. Lumière d'un ciel, pas chercher d'autre côté. Uni y a un frontière, uni serré d'un ciel, uni servi, uni y a un ciel, uni y a un frontière. D'autre côté qui a Dieu, pas chercher, pas chercher, pas chercher les miens. D'autre côté qui a fond Dieu, pas chercher, pas chercher, pas chercher.
Il était bien calme, le camarade Colobarst, là, sur l'extrait qu'on vous a mis. C'est vrai que ces révoltes qui prennent place régulièrement dans les îles Caraïbes, ben c'est pas un hasard, hein. C'est évidemment que les populations locales continuent à être exploitées par aussi, on pourrait dire, des bourgeoisies locales qui sont les héritiers des esclavagistes, ces familles qui sont en place depuis un siècle, deux siècles, voire plus, et qui continuent à imposer des conditions de vie souvent inacceptables. Donc, oui, je rappelais le combat qui s'est déroulé là en début d'année, pendant l'hiver. Mais c'est vrai que c'est en fait une permanence. C'est une permanence des combats pour effectivement l'autonomie, pour le droit de décider pour soi. Et c'est bien ce qu'ont revendiqué dans les années 50-60 les populations qui étaient encore colonisées par les États français, anglais, puisqu'elle subissait ce joug du colonialisme depuis très longtemps. Il y a eu en avril, alors j'étais pas là, j'ai pas pu assister à ces événements, il y a eu en avril tout un ensemble d'activités qui s'appelait justement « Activisme pour décoloniser ». Et avec des projections, c'est vrai que si vous revoyez passer, par exemple, les films de Raoul Peck, les discussions autour, en effet, de la libération des populations, aussi bien d'Afrique sahélienne que d'Afrique du Maghreb, que du Moyen-Orient, quelquefois, parce que c'est vrai que... Évidemment, ce qui se passe au Moyen-Orient, c'est aussi l'héritage du colonialisme, le fait que la puissance britannique ait pu installer, entre guillemets, un refuge juif qui était à l'origine de la création de l'État d'Israël, de tout son pouvoir de colonisateur britannique au Moyen-Orient, ben, c'est pas un hasard non plus. Et on paye, enfin je veux dire, les populations, par exemple palestiniennes, continuent aussi à payer, non seulement ils payent le colonialisme israélien, mais ils payent aussi le colonialisme britannique qui a installé des pouvoirs qui n'étaient évidemment pas du tout des pouvoirs populaires. Donc c'est vrai que là, je vois, il y a encore à l'Alhambra, je vous parlais de la projection du film Les Massacres de Sétif à l'Alhambra hier. Il y a encore à l'Alhambra, samedi 10 mai, une projection d'un film sur Haïti. Et ce film, très étrangement, s'appelle « Haïti, la rançon de la liberté ». Alors, c'est assez affreux, en effet. Haïti, ça a été le premier État libre des Caraïbes en 1804. Et la rançon de la liberté, ce serait que peut-être que cet État libre d'Haïti est tombé sous la botte d'autres exploiteurs américains, par exemple, qui n'avaient de cesse d'installer un pouvoir et éventuellement un pouvoir dictatorial qui soit justement à la botte du pouvoir capitaliste américain pour mieux exploiter encore dans une forme de néocolonialisme, cette fois, les populations locales. Donc c'est toujours utile de parler de colonialisme ou de néocolonialisme parce que finalement, les formes de ces occupations, les formes de ces suggestions se renouvellent. Et ce que j'aime dans le cahier d'un retour au pays natal de Césaire, c'est que lui, il a dans ses écrits une liberté totale. On a vu tout à l'heure ses imprécations, on a vu tout à l'heure ses espèces d'explosion de colère. Alors, je suis désolée, hein, comme je vous disais, je suis vraiment très enrhumée. Je ne suis pas allée au bout de la première lecture, mais vous avez bien compris de quoi il était question. On va reprendre cette fois-ci, donc en alternant un petit peu Françoise et moi, on va reprendre du début. Comment ça commence, justement, le cahier d'un retour au pays natal. Et ça commence par une formulation répétée, je pense, une bonne dizaine de fois, au bout du petit matin. Comme si, en effet, au bout du petit matin, c'était cette espèce d'éveil à la vie que cherchait Aimé Césaire. Et au bout du petit matin, oui, il va, lui, avec cette espèce de, je sais pas comment on peut dire, de poésie libre, de poésie en vers libre ou de prose poétique, il va chercher justement à retrouver les figurations, les évocations aussi de la vie d'une population qui oscille entre la libération, la suggestion, la liberté revendiquée, la liberté niée, etc., etc. Au bout du petit matin, « Va-t'en, lui disais-je, gueule de flic, gueule de vache, va-t'en, je déteste les larbins de l'ordre et les hannetons de l'espérance. Va-t'en, mauvais gris-gris, punaise de moignon. » Puis je me tournais vers des paradis pour lui et les siens perdus, plus calmes que la face d'une femme qui ment. Et là, bercé par les effluves d'une pensée jamais lasse, je nourrissais le vent, je délassais les monstres et j'entendais monter de l'autre côté du désastre un fleuve de tourterelles et de trèfles de la savane que je porte toujours dans mes profondeurs, à hauteur inverse du 20e étage des maisons les plus insolentes, et par précaution, contre la force putréfiante des ambiances crépusculaires, arpentées nuit et jour d'un soleil sacré vénérien. Au bout du petit matin, bourgeonnant, dense, frêle, les Antilles qui ont faim, les Antilles grêlées de petites véroles, les Antilles dynamitées d'alcool, échouées dans la boue de cette baie, dans la poussière de cette ville, sinistrement échouée. Au bout du petit matin, l'extrême, trompeuse, désolée, escarre sur la blessure des eaux, les martyrs qui ne témoignent pas, les fleurs du sang qui se fanent et s'éparpillent dans le vent inutile comme des cris de perroquets babillards. Une vieille vie menteusement souriante, ses lèvres ouvertes d'angoisse désaffectée, une vieille misère pourrissant sous le soleil silencieusement, un vieux silence crevant de pustules tièdes, l'affreuse inanité de notre raison d'être. Au bout du petit matin, sur cette plus fragile épaisseur de terre que dépasse de façon humiliante son grandiose avenir, les volcans éclateront, l'eau nue emportera les taches mûres du soleil, et il ne restera plus qu'un bouillonnement tiède, picoré d'oiseaux marins, la plage des songes et l'insensé réveil. Au bout du petit matin, cette ville plate, étalée, trébuchée de son bon sens, inerte, essoufflée sous son fardeau géométrique de croix, éternellement recommençante, indocile à son sort, muette, contrariée de toute façon, incapable de croître selon le suc de cette terre, embarrassée, rognée, réduite en rupture de faune et de flore. Au bout du petit matin, cette ville plate, étalée, et dans cette ville inerte, cette foule criarde, si étonnamment passée à côté de son cri, comme cette ville à côté de son mouvement, de son sens, sans inquiétude, à côté de son vrai cri, le seul qu'on eût voulu l'entendre crier parce qu'on le sent bien, lui seul, parce qu'on le sent habiter en elle, dans quelque refuge profond d'ombre et d'orgueil, dans cette ville inerte, cette foule à côté de son cri de faim, de misère, de révolte, de haine, cette foule si étrangement bavarde et muette. Dans cette ville inerte, cette étrange foule qui ne s'entasse pas, qui ne se mêle pas, habile à découvrir le point de désencastration, de fuite, d'esquive, cette foule qui ne sait pas faire foule. Cette foule, on s'en rend compte, si parfaitement seule sous ce soleil, à la façon dont une femme, toute on eût cru à sa cadence lyrique, interpelle brusquement une pluie hypothétique et lui intime l'ordre de ne pas tomber. Ou au bout d'un signe de croix rapide, sans mobile visible, ou à l'animalité subitement grave d'une paysanne urinant debout, les jambes écartées, raides. Dans cette ville inerte, cette foule désolée sous le soleil, ne participant à rien de ce qui s'exprime, s'affirme, se libère au grand jour de cette terre sienne. Ni à l'impératrice Joséphine des Français, régnant très haut au-dessus de la négraille, ni au libérateur figé dans sa libération de pierre blanchie, ni au conquistador, ni à ce mépris, ni à cette liberté, ni à cette audace. Au bout du petit matin, cette ville inerte et ses au-delà de lèpre, de consomption, de famine, de peur, tapis dans les ravines, de peur nichée dans les arbres, de peur creusée dans le sol, de peur en dérive dans le ciel, de peur amoncelée et ses fumerolles d'angoisse. Au bout du petit matin, le morne oublié, oublieux. Au bout du petit matin, le morne aux sabots inquiets et dociles, son sang impaludé qui met en déroute le soleil de ses poux surchauffés. Au bout du petit matin, l'incendie contenu du morne comme un sanglot que l'on a bâillonné au bord de son éclatement sanguinaire en quête d'une ignition qui se dérobe et se méconnaît. Au bout du petit matin, le morne accroupi devant la boulimie aux aguets de foudres et de moulins, lentement vomissant ses fatigues d'homme, le morne seul et son sang répandu, le morne et ses pansements d'ombre, le morne et ses rigoles de peur, le morne et ses grandes mains de vent. Au bout du petit matin, le morne famélique, et nul ne sait mieux que ce morne bâtard pourquoi le suicide s'est étouffé avec complicité de son hypoglosse en retournant sa langue pour l'avaler. Pourquoi une femme semble faire la planche à la rivière Capot, son corps lumineusement obscur qui s'organise docilement au commandement de son nombril, mais elle n'est plus qu'un paquet d'eau sonore. Au bout du petit matin, les chouages hétéroclites, quitte de la reine Blanche de Castille, quitte, on l'a dit, de l'impératrice, des marais de la faim lourde et veule, de la faim ensevelie au plus profond de la faim de ce morne famélique. Au bout du petit matin, les hypocrisies, les lubricités, les trahisons, les mensonges, les faux, les concussions, l'essoufflement des lâchetés insuffisantes, l'enthousiasme, les avidités, les hystéries, les perversions, les arlequinades de la misère, les pruries, les urticaires, les hamacs tièdes de la dégénérescence. Les microbes très étranges, les poisons, les sanies de plaies antiques, les fermentations. Au bout du petit matin, la grande nuit immobile, les étoiles plus mortes qu'un balafon crevé. Et nos gestes imbéciles et fous pour faire revivre l'éclaboussement d'or des instants favorisés, le cordon ombilical restitué à sa splendeur fragile, le pain et le vin de la complicité, le pain, le vin, le sang des épousailles véridiques. Au bout du petit matin, ce plus essentiel pays restitué à ma gourmandise, non de diffuse tendresse, mais la tourmentée concentration sensuelle du gratéton des mornes avec l'accidentel palmier comme son germe durci, la jouissance saccadée des torrents, et depuis Trinité jusqu'à Grand-Rivière, la grand-lèche hystérique de la mer.
Au bout du petit matin, cette ville plate, étalée, Elle rampe sur les mains sans jamais aucune envie de vriller le ciel d'une stature de protestation. Les dos des maisons ont peur du ciel truffé de feu. Leurs pieds des noyades du sol. Elles ont opté de se poser superficielles entre les surprises et les perfidies. Et pourtant, elle avance la ville, même qu'elle paie tous les jours plus outre sa marée de corridors carrelés de persiennes pudibondes, de cours gluantes, de peintures qui dégoulinent. Et de petits scandales étouffés, de petites hontes tues, de petites haines immenses pétrissent en bosses et creux les rues étroites où le ruisseau grimace longitudinalement parmi les troncs. Au bout du petit matin, au-delà de mon père, de ma mère, la case gerçant d'ampoules, comme un péché tourmenté de la cloque, et le toit aminci, rapiécé de morceaux de bidons de pétrole, et ça fait des marées de rouillures dans la pâte grise, sordide, empuantie de la paille, et quand le vent siffle, ces disparates font bizarre le bruit, comme un crépitement de friture d'abord, puis comme un tison que l'on plonge dans l'eau avec la fumée des brindilles qui s'envolent. Et le lit de planche où s'est levée ma race, tout entière ma race que de ce lit de planche, avec ses pattes de caisse de kérosine, comme s'il avait l'éléphantiasis de lit, et sa peau de cabri, et ses feuilles de banane séchées, et ses haillons, une nostalgie de matelas, le lit de ma grand-mère, au-dessus du lit, dans un pot plein d'huile d'un lumignon dont la flamme danse comme un gros navet, comme un gros ravé, sur le pot en lettres d'or, merci.
Oui, c'est assez fabuleux ce petit passage. Moi, ça me rappelle complètement, vous savez, le film de Suzanne Palsy, La rue Cazenègre. La grand-mère, la lampe à kérosène, les bidons de kérosène qui servent de pied au lit, parce que, bah oui, de temps en temps, l'eau monte, donc il faut bien surélever le lit, et les bidons de kérosène, ils servent à surélever le lit. Et puis la lampe, elle n'est pas au kérosène, heureusement, elle est à l'huile, mais la lampe, le bol, vous vous souvenez, dans Rue Cazenègre, le drame du bol cassé, enfin bon... c'est absolument merveilleux la façon dont Aimé Césaire passe d'images totalement ésotériques, totalement surréalistes, à une évocation matérielle des cases, des cases de la capitale, là, en Martinique. On est dans les quartiers, en effet, des rues Cazenègre ou même simplement en centre-ville, dans les quartiers de ces maisons de bois qui sont surélevées, qui sont plantées sur des grosses pierres ou sur des bidons de kérosène pour pouvoir déménager quand on en a besoin, quand on n'a plus les moyens de payer son loyer. Et on part, non pas avec sa maison sur son dos, mais avec sa maison dans une charrette et on va la poser ailleurs. Et cette évocation des maisons de bois ou des cases, j'ai vraiment trouvé que c'était absolument merveilleux. Donc Françoise va continuer avec cette évocation de la rue Paille. Et c'est amusant parce que les puristes ont fait remarquer que non, il n'y avait pas de rue Paille à Fort-de-France et qu'il abusait un peu, Aimé Césaire, de parler de la rue Paille. Alors quand même, la liberté du poète, hein, c'est justement bien d'échapper à la réalité. Donc merci Aimé Césaire d'avoir parlé de la rue Paille qui n'existe pas à Fort-de-France parce que quand on est poète, on a tous les droits, y compris d'inventer la rue Paille. Allons-y.
Et une honte cette rue Paille. Un appendice dégoûtant comme les parties honteuses du bourg qui étend à droite et à gauche tout au long de la route coloniale la houle grise de ses toits décentes. Ici, il n'y a que des toits de paille, que l'embrun a bruni et que le vent épile. Tout le monde la méprise, la rue Paille. C'est là que la jeunesse du bourg se débauche. C'est là surtout que la mer déverse ses immondices, ses chats morts et ses chiens crevés. Car la rue débouche sur la plage, et la plage ne suffit pas à la rage écumante de la mer. Une détresse, cette plage, elle aussi, avec ses tas d'ordures pourrissants, ses croupes furtives qui se soulagent, et le sable est noir, funèbre. On n'a jamais vu un sable si noir. Et l'écume glisse dessus en glapissant, et la mer la frappe à grands coups de boxe. Ou plutôt, la mer est un gros chien qui lèche et mord la plage aux jarrets. Et à force de la mordre, elle finira par la dévorer, bien sûr. La plage et la rue Paille avec. Au bout du petit matin, le vent de jadis qui s'élève, des fidélités trahies, du devoir incertain qui se dérobe et de cet autre petit matin d'Europe.
Oui, là aussi, au bout du petit matin, la description de la plage, hein, on n'est pas tout à fait dans l'office de tourisme de Pointe-à-Pitre ou de Fort-de-France. Si vous racontez aux gens qui veulent partir en vacances aux Antilles que les plages sont comme ça aux Antilles, ils ne vont pas partir, c'est sûr. Alors, c'est ça aussi qui m'a plu, bien sûr, c'est cet excès dans le... Enfin, pas l'excès, puisque là, en fait, on est dans la réalité, mais enfin, cette image qui peut paraître excessive, alors qu'elle n'est que celle de la réalité, d'une nature qui, bien sûr, est comme elle est, et le sable noir tant vanté des volcans comme étant le plus pur. Bah oui, ce n'est jamais qu'un sable noir qui peut être funèbre si on le voit de ce côté-là. Alors voilà, au bout du petit matin, on a eu, je ne sais plus, hein, une douzaine, une quinzaine, une vingtaine de fois cette expression. Et au bout du petit matin, l'expression qui suit, c'est « partir ». Le dernier petit matin que Aimé Césaire a évoqué, c'est le petit matin d'Europe. Alors oui, en effet, quand à l'époque les jeunes Antillais songeaient à partir, ils partaient d'abord vers l'Europe. Et partir, c'est la nouvelle expression qu'il va saisir, Aimé Césaire, pour nous dire ce que ça peut bien être que partir, parce que c'est pas seulement partir pour Paris, bien sûr. Partir. Comme il y a des hommes hyènes et des hommes panthères, je serai un homme juif, un homme cafre, un homme hindou de Calcutta, un homme de Harlem qui ne vote pas. L'homme famine, l'homme insulte, l'homme torture. On pourrait à n'importe quel moment le saisir, le rouer de coups, le tuer, parfaitement le tuer, sans avoir de compte à rendre à personne, sans avoir d'excuses à présenter à personne. Un homme juif, un homme pogrom, un chiot, un mendigo, un noir. Mais est-ce qu'on tue le remords, beau comme la face de stupeur d'une dame anglaise qui trouverait dans sa soupière un crâne de Hottento ? Je trouverais le secret des grandes communications et des grandes combustions. Je dirais l'orage, je dirais le fleuve, je dirais la tornade, je dirais la feuille, je dirais l'arbre. Je serais mouillée de toutes les pluies, humectée de toutes les rosées. Je roulerai comme un sang frénétique sur le courant lent de l'œil des mots, en chevaux fous, en enfants frais, en caillots couvre-feu, en vestiges de temple, en pierres précieuses, assez loin pour décourager les spectateurs. Qui ne me comprendrait pas, ne comprendrait pas davantage le rugissement du tigre. Et vous, fantômes, montée bleue de chimie d'une forêt de bêtes traquées, de machines tordues, d'un jujubier de chair pourrie, d'un panier d'huîtres, d'un lacis de lanières découpées dans le beau sisal d'une peau d'homme. J'aurai des mots assez vastes pour vous contenir. Et toi, terre tendue, terre saoule, terre comme un grand sexe levé vers le ciel, terre grand délire de la mandibule de Dieu. Terre sauvage montée de resserre de la mer avec dans la bouche une touffe de ses croupies, terre dont je ne puis comparer la face houleuse qu'à la forêt vierge et folle que je souhaiterais pouvoir en guise de visage montrer aux yeux des hommes. Il me suffirait d'une gorgée de ton lait pour qu'en toi je découvre, toujours à même distance de mirage, mille fois plus natal et doré d'un soleil que n'entame nul prisme, la terre où tout est libre et fraternel, ma terre. Partir. Partir. Mon cœur bruissait de générosité emphatique. Partir. J'arriverai lisse et jeune dans un pays, le mien, et je dirai à ce pays dont le limon entre dans la composition de ma chair, j'ai longtemps aimé errer, et je reviens vers la hideur désertée de vos plaies. Donc partir, ou revenir. Je viendrai à ce pays mien et je lui dirai « Embrasse-moi sans crainte ». Et si je ne sais que dire, c'est pour toi que je parlerai. Et je dirai encore « Ma bouche sera la bouche des malheurs qui n'ont point de bouche, ma voix la liberté de celle qui s'affaisse au cachot du désespoir. » Et venant, je me dirai à moi-même et je dirai « Surtout mon corps aussi bien que mon âme, gardez-vous de vous croiser les bras en l'attitude stérile du spectateur, car la vie n'est pas un spectacle, car une mer de douleur n'est pas une scène, car un homme qui crie n'est pas un ours qui danse. Voilà, je suis revenu. De nouveau cette vie clopinante devant moi. » Et cette vie ou cette mort sans sens ni piété, cette mort où la grandeur piteusement échoue, l'éclatante petitesse de la mort, cette mort qui clopine de petitesse en petitesse, s'est pelletée de petites avidités du conquistador, s'est pelletée de petits larbins comme du grand sauvage, s'est pelletée de petites âmes sur le Caraïbe aux trois âmes. Et toutes ces morts futiles, absurdité sous l'éclaboussement de ma conscience ouverte, tragique futilité, éclairée de cette seule noctiluque et moi seule, brusque scène de ce petit matin, où fait le beau l'apocalypse des monstres, puis chavirée se tait la chaude élection de cendres, de ruines et d'affaissement. Alors, il ne nous reste pas grand temps. Je voudrais quand même ne pas finir sur la mort, les ruines et les affaissements, parce qu'au bout du petit matin, bien sûr, il y a le monde qui se relève. Au bout du petit matin, le soleil qui tout saute et crache ses poumons. Au bout du petit matin, un petit train de sable, un petit train de mousseline, un petit train de grains de maïs. Au bout du petit matin, un grand galop de pollen, un grand galop d'un petit train de petite fille, un grand galop de colibri, un grand galop de dagues pour défoncer la poitrine de la terre. Des douaniers, des anges, qui montaient aux portes de l'écume la garde des prohibitions. Elle déclare ses crimes. Il n'y a rien à dire pour sa défense. Danse, idole, relapse, moi aussi. J'ai assassiné Dieu de ma paresse, de la paresse de mes paroles, de mes gestes, de mes chansons. J'ai porté des plumes de perroquet, des dépouilles de chat musqué. J'ai lassé la patience des missionnaires. J'ai insulté les bienfaiteurs de l'humanité. Mais pourquoi la brousse impénétrable, où je puis me cacher avec le vif zéro de ma mendicité? Alors, moi sur une route... Moi, sur une route, enfant, mâchant une racine de canne à sucre, comme un homme traîné sur une route sanglante une corde au cou, comme au milieu d'un cirque immense le front noir sous une couronne de datura. Mais qui tourne ma voix? Qui écorche ma voix? Me fourrant dans la gorge mille crocs de bambou, mille pieux d'oursin. Mais non, c'est le sale bout du monde, le sale bout du petit matin, c'est toi, sale haine, c'est toi le poids de l'insulte et les 100 ans de coups de fouet, les 100 ans de ma patience, les 100 ans de mes soins jusqu'à ne pas mourir. Alors chantons, chantons les fleurs vénéneuses éclatant dans les prairies furibondes, chantons les ciels d'amour coupés d'embolie, les matins épileptiques, les embrasements de sables abyssaux, les descentes d'épaves dans les nuits foudroyées d'auteurs fauves. Chantons, dansons, la fin du monde, parbleu, la fin de ce monde effroyable, et le début d'un autre. Des mots, oui, des mots pour manier les quartiers du monde, des mots pour épousseter les continents, et des mots pour revivre. Je ne joue jamais si ce n'est à l'an mille. Je ne joue jamais si ce n'est à la grande peur. Je ne m'accommode pas du monde ancien. Je veux revivre. C'est moi, rien que moi, qui prends langue avec la dernière angoisse. C'est moi, oh, rien que moi, qui m'assure au chalumeau les premières gouttes de lait virginal. On va finir sur le lait virginal. On peut espérer que le lait virginal va justement être à l'origine de la croissance d'un nouvel homme. Un nouvel homme qui ne sera pas colonisé, un nouvel homme qui sera libre. Et je vous invite, si ça vous dit, à être debout et à manifester demain, jeudi, à 14h30 à la porte d'Aix contre la colonisation ou la néocolonisation ou les restes de la colonisation. En tout cas, jeudi 8 mai, pour manifester pour un nouveau monde et pas seulement l'armistice de l'ancien monde. Au revoir, à bientôt.
Here's a song that comes from Tanzania. Malaika.